Est-ce que vous êtes des gens courageux? Ok, donc la prédication, elle est aussi pour vous. Si vous êtes moins courageux, elle est particulièrement pour vous. Le thème d'aujourd'hui, c'est peut-être pas le premier diapo. Ouais, voilà, c'est ça. J'ai commencé une petite série sur le thème « Comment on peut oser ?» Oser la foi, faire confiance à Dieu, ça faisait partie aussi des chants qu'on vient de chanter. C'est pas toujours facile, en tout cas, pour certains c'est facile, pour d'autres c'est moyennement facile et pour d'autres c'est vraiment compliqué. Comment oser faire des choses dont on n'a pas l'habitude? Comment oser faire des choses qui, pour nous, demandent un certain effort, qui s'était accompagné dans le passé d'un certain échec? Comment oser de nouveau? Comment faire confiance à Dieu? Donc, le thème aujourd'hui, ne désespérez pas, osez faire des pas dans la foi. Et le texte que j'ai choisi, c'est un texte qui m'a particulièrement parlé pour entrer dans le ministère. Et il est tiré de l'Évangile selon Luc, le chapitre 5, les versets 1 à 11. Il y a trois tableaux et je vous invite de faire la lecture ensemble. Donc, chacun qui voudrait faire la lecture d'un tableau. Pourquoi il n'y a pas des versets là? Tu es sûr que c'est ça? Il n'y a pas de texte? Ok. Donc, je serai moi-même curieux. Qu'est-ce que ça va afficher là pendant la prédication? Ok. Commençons avec le début. Donc, qui va faire la lecture de ce premier tableau? Il y en a trois en total.
Un jour, Jésus se trouvait au bord du lac de Génézareth, et la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Il vit au bord du lac deux barques. Les pêcheurs en étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques, qui appartenait à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu du rivage. Puis il s'assit, et de la barque, il enseignait la foule.
Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance là où l'eau est profonde, et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. » Ils les jetèrent et prirent une grande quantité de poissons, et leurs filets se déchiraient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et remplirent les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient.
Quand il vit cela, Simon Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, éloigne-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » En effet, lui et tous ceux qui étaient avec lui étaient remplis de frayeur à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en allait de même pour Jacques et Jean, les fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon, « N'aie pas peur, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Alors ils ramenèrent les barques à terre, laissèrent tout et le suivirent.
Merci pour cette lecture. Osez la foi, vous avez vu le jeu de mots, le verbe qui s'écrit avec un R à la fin et le même mot qui sonne complètement pareil, oser, avec un Z, qui devient un impératif pour chacun qui voudrait le prendre comme un défi. L'événement de notre texte se situe tout au début du ministère de Jésus en Galilée, au bord du lac de Génézareth. Après son baptême et les tentations dans le désert de Judée, Jésus s'est rendu d'abord dans son village natal Nazareth. Il y avait proclamé clairement pourquoi il est venu. Il est venu d'abord pour les pauvres, il est venu pour les prisonniers, il est venu pour les aveugles, il est venu pour les opprimés et il est venu pour guérir, pour libérer et pour consoler. À Capernaum, dans une synagogue, et puis dans la maison de Simon-Pierre, celui qui lui a prêté la barque plus tard, il a opéré des guérisons. Les gens qui ont entendu Jésus pour la première fois, ceux qui l'ont rencontré pour la première fois, ils étaient impressionnés. Bon, il y a certainement des personnes qui sont plus impressionnantes que d'autres. Mais qu'est-ce qui fait que nous sommes impressionnés par une personne? Elle a quelque chose que toutes les autres n'ont pas. Ou pas de cette même manière ou qualité. Une personne qui se distingue. Est-ce que vous êtes des personnes qui impressionnent d'autres par leur façon de vivre? Par leur façon de témoigner votre foi? D'être courageux? Les gens étaient impressionnés parce que Jésus ne parlait pas comme les autres enseignants dont ils avaient l'habitude dans la synagogue. Peut-être cela vous est déjà arrivé, que quelqu'un vous dit « Mais c'est quand même étrange, ta façon de me parler de Dieu, c'est pas celle du prêtre ou du pasteur dans mon église. » Oui, ça peut exister que certaines personnes parlent de Dieu et d'autres ont fait l'expérience de Dieu et peuvent en parler autrement. Ce Jésus, il ne parle pas comme les autres, mais il parle avec autorité et avec puissance. On pouvait même penser que sa parole venait d'ailleurs. D'ailleurs, c'était vrai. Elle ne tombait pas dans le vide, mais elle agissait ses paroles sur les corps des personnes. Cette parole a agi sur les consciences des personnes. Et cette parole a agi sur les cœurs et dans les cœurs de ceux qui l'écoutaient. Donc ce matin, nous retrouvons Jésus au bord d'un lac et c'est pour la première fois qu'il prêche en plein air. Beaucoup de gens sont venus pour l'écouter. Jésus, il s'est fait une renommée et les gens se pressaient. Ils se pressaient autour de lui et ils commençaient à le presser vers le bord du lac tellement ils étaient proches. Donc, j'ai regardé un peu qu'est-ce que voudrait dire le mot presser. Presser, c'est se dépêcher, se hâter. Comme lorsqu'il y avait une urgence. On se presse autour de quelqu'un qu'on voudrait voir ou écouter de près. On se presse lorsqu'on est en retard. C'est le dimanche matin. Ou on se presse aussi lorsqu'on veut être au premier rang. Au premier rang. Là où tu peux voir directement la personne, écouter le plus directement, le plus proche possible la personne pour laquelle tu es venu. Se presser autour, c'est aussi venir en grand nombre, se tasser, être serré les uns contre les autres. Mais on presse aussi l'huile d'olive pour en extraire l'huile précieuse qui nourrit, qui soigne et qui soulage. Pourquoi Jésus était encore venu? Pour soulager ceux qui sont dans la souffrance. Donner espoir à ceux qui ont désespéré ou qui sont en train de désespérer. Il est venu pour guérir. La foule se presse donc autour de Jésus pour être guéri, pour être enrichi, être soulagé. Chacun vient avec une attente personnelle. Et si c'était que la curiosité. La foule se presse pour écouter cet homme qui parle la parole de Dieu. C'était pas une parole d'homme. C'était pas la parole d'un bon prédicateur. Dans ses paroles, il y avait quelque chose qui était de nature divine. Et les gens ont distingué, ils ont pu faire la différence parce que cette parole leur parlait. La foule aurait pu aller à la synagogue où on peut rencontrer des scribes, des prédicateurs spécialistes de l'interprétation de la loi de Moïse. Mais c'est vers Jésus que cette foule a choisi marcher librement. Pour elle, Jésus est comme un trésor. En tout cas, il porte en lui-même un trésor. Quand il parle, c'est comme un trésor qui s'ouvre. Et brusquement, tu es émerveillé par ce trésor qui se présente à toi. Mais ils sont aussi venus parce que quand ils parlent, c'est comme une source de lumière qui s'allume dans les ténèbres qui sont les miennes. Et il est comme un arbre couvert de fruits spirituels. Jésus se tient donc au bord de ce lac, et dans l'Antiquité, pour de nombreux peuples, aussi bien superstitieux comme aujourd'hui on peut encore l'être, les lacs et les mers symbolisaient tout le domaine du mal, tout le domaine de la souffrance et de la mort. Parce qu'on ne maîtrisait pas ces lieux. Ils étaient liquides, ils étaient profonds. Et ceux qui tombaient dedans pouvaient bien se noyer. On disait qu'au fond des lacs et des mers vivaient des monstres. Voilà, je laisse là pour vous décrire un peu la croyance. Jésus se tient au bord de ce lac. On pourrait le lire comme, oui, géographiquement, hein, sur un GPS, il était au bord, je vois là, le signe, il est au bord du lac. Mais parfois, lisez aussi un peu, je ne voudrais pas dire entre les lignes ce qui n'est pas écrit, ça je ne vous dis pas, mais aussi ce qui pourrait symboliser que quelqu'un a le courage de se tenir au bord de là, sur une ligne, une frontière qui fait peur aux autres, qu'on ne franchit pas si facilement, qu'on a peut-être même peur de franchir. Jésus se tient au bord de ce lac, près de la foule, puis il monte dans une barque et s'éloigne un peu de la rive parce qu'il peut mieux en parler vu que la foule le presse. Un peu comme s'il voulait donner l'exemple, montrer dans une barque, se mettre sur un élément liquide qu'on ne maîtrise pas. Sur les lieux où habitent les monstres. Ou un lieu qui est connu comme un lieu de souffrance. Ou de la mort. Comme Jésus voulait nous dire aujourd'hui, tu peux vivre ta vie, bien sûr, sans te mouiller. Tu peux rester au bord du lac. Tu peux aller jusqu'à tes limites, de là où tu penses pouvoir ou vouloir aller. Tu peux rester dans ton cocon étanche, imperméable. Tu peux rester aussi dans tes malheurs. Tu peux rester aussi dans ce qui est ta détresse. Tu es libre d'aller là où tu veux aller. Mais Jésus, il t'invite aujourd'hui à ce que tu oses faire un pas de plus. Un pas dont tu n'as pas l'habitude de faire. Éloigner un peu, beaucoup, du bord de ta vie à toi, de ce qu'elle est, ta vie, ou de ce qu'elle est devenue, ta vie. Et regarder au-delà de l'horizon qui est le tien, au-delà de la frontière qui est la tienne ou ta réalité, vers un monde, vers une autre réalité, vers laquelle tu n'oses pas aller. Ou tu n'oses pas toujours. Allez. Jésus t'invite et invite la foule à un petit ou grand déplacement. Un petit ou grand dépassement. Des choses qui nous dépassent. Puis il se tourne vers un autre groupe d'hommes. Ce sont des hommes qu'il a emmenés dans cette barque. Et il dit à Simon et ses compagnons de pêcheurs, après avoir fait la prédication, allez au large, allez où l'eau est profonde et jetez vos filets de nouveau. Deux choses complètement absurdes. Bon, il est charpentier, qu'est-ce qu'il en sait de la pêche. Néanmoins, il était créateur de ce qui vit dans les eaux, n'est-ce pas? Premièrement, allez au large, là où l'eau est profonde. Normalement, on ne jette pas ses filets dans l'eau profonde. Déjà, les filets n'étaient pas suffisamment grands pour descendre suffisamment dans l'eau. On pêchait là où l'eau était basse. À eux aussi, Jésus demande d'oser faire un déplacement dont ils n'ont pas l'habitude. Passer des eaux basses aux eaux profondes. Qu'ils aillent là, au large du lac, où l'eau est plus profonde encore, dans les eaux qui leur paraissent bien sombres, parce qu'on ne voit pas le fond. Qui leur paraissent surtout inconnues. On ne sait pas qu'est-ce qui est en dessous. Ressortir encore plus loin, au large. D'aller plus loin que d'habitude. En plus, en plein jour. Et tout le monde sait que la pêche se fait la nuit. Mais la nuit était pour eux un lieu et un temps de l'échec. Ils revenaient de la nuit. Et pourtant, leur bac était vide. Ils n'avaient rien trouvé. C'était du travail pour rien. C'était le grand vide. La nuit était le lieu et le temps d'un échec total. Le lieu et le temps d'un désespoir, de la désolation, un temps de leur démoralisation et surtout le lieu et le temps d'une énorme déception. Vous dites, il ne faut pas être pêcheur pour connaître ça. Peut-être vous avez traversé ou vous êtes en train de traverser des tels moments. Vous avez tellement travaillé, vous avez tellement espéré, vous avez espéré de récolter le fruit de votre travail ou le changement de situation et finalement vous êtes arrivé là et votre barque est vide. Seigneur, nous avons rien. Nous n'avons rien pris. C'est bien le résultat de certains parmi nous. C'est le résultat de ce qui est notre vie ou ce qui reste de notre vie. C'est la résignation. Ce n'est pas la vie dont j'ai rêvé. Peut-être certains parmi vous pourraient même signer cette phrase en disant « Oh !» C'est pas de quoi j'ai rêvé ma vie. Et pourtant les choses sont prises dans nos filets. Des choses sans valeur. Des choses douloureuses. Dans nos filets ont été pris des choses sales. La pourriture qui continue à pourrir notre vie. Nos filets ne sont pas vides. Ils sont remplis des choses qu'on n'espérait pas pêcher. Et pourtant, ils se retrouvent. Jésus accompagne ceux et celles qui veulent l'écouter pour la première fois ou écouter de nouveau. Qui ose lui faire confiance, qui avec Jésus ose faire un pas ou des pas en plus pour découvrir et pour rentrer dans une nouvelle expérience avec Dieu. Ou pour renouveler cette expérience. La parole de Dieu est à la fois encourageante comme aussi apaisante. Allez au large, n'aie pas peur, je vous accompagne. Elle veut dire, je suis toujours là, même si tu vas là où tu n'as pas l'habitude d'aller, je t'accompagne. Partout où je te demande d'aller, je serai avec toi. Tu dois affronter rien tout seul. Va et jette tes filets. Jésus demande à Pierre de jeter ses filets encore une fois, mais cette fois-ci dans les eaux profondes. Profondes, car en Jésus, il y a des choses plus profondes à découvrir que des choses superficielles ou pas suffisamment profondes. L'expérience profonde à trouver qu'on ne peut pas trouver dans une vie sans profondeur. Et le changement pour Pierre et ses compagnons de pêche s'opère par un tout petit mot. Et le mot s'appelle « mais ». Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai les filets. Et malgré leur échec, et peut-être à cause de leur échec la nuit, ils trouvent le courage d'écouter, d'entendre et répondre à l'appel de Jésus et d'oser repartir dans la foi. Mais sur ta parole, Jésus, j'ose jeter de nouveau les filets, verset 5. Et en faisant confiance à la parole de Jésus, il reçoit. Mais il reçoit pas simplement, il reçoit pleinement, abondamment, merveilleusement. Les amis, c'est comme cela que Jésus donne. Voilà le don de Dieu. Il est immense, il est débordant et il est surtout généreux. Rien ne peut le contenir. Le don de Dieu dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Il dépasse tout ce qu'on peut désirer. Et j'ai dû penser à une bénédiction que je donne là où on me demande donner des bénédictions. C'est écrit en Philippiens chapitre 4 verset 7. Il est question de la paix de Dieu. La paix de Dieu qui dépasse tout qu'on peut imaginer. La paix de Dieu qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer gardera vos cœurs et vos pensées liées à Jésus. Le résultat est au-delà de toute attente, aussi inattendu que l'ordre y aller, jeter les filets était ou semblait insensé. Les filets risquent de se déchirer tellement grande est leur pêche. On remplit deux bateaux au lieu d'une barque, et cela jusqu'à bord. Jusqu'à bord. Et ils risquent de couler quand même. Donc à peine ils arrivent les rives. J'ai dû penser à un de mes psaumes préférés. C'est le psaume 23. L'Éternel est mon berger. Bon, pardonnez-moi, c'est pas le pêcheur. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait prendre du repos dans les pâturages bien verts. Il me dirige vers une eau paisible. Il me redonne des forces. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Et je reviens maintenant à la nuit de toute déception. Et même quand je marche dans la vallée de la mort, je ne redoute aucun mal, car tu es avec moi. Ta conduite et ton appui, voilà ce qui me réconforte. Tu dresses une table devant moi, en face de mes adversaires ou devant les adversités de la vie. Tu verses de l'huile sur ma tête, comme on presse des olives. Oui, le bonheur. Ah oui, et tu fais déborder ma coupe, ça, il ne faut pas oublier. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et je reviendrai dans ta maison, dans la maison de l'Éternel, jusqu'à la fin de mes jours. À ça, j'ai dû penser, à ce que Dieu donne à travers les difficultés. Il nous les évite pas. Nous les traversons avec lui, mais nous récoltons la bénédiction. Nous récoltons. Tu dresses une table devant moi et tu fais déborder ma coupe. Pour nos amis allemands, la traduction, die Übersetzung, die Schweizer Übersetzung, du füllst meine Coupe, mein Becher, du machst mein Becher schwipply schwapply full. Désolé, ça c'était pour les Allemands. Pierre, lui, il est bouleversé. Bouleversé. Ici, c'est Dieu qui est à l'œuvre. Il le sait tout de suite. C'est Dieu qui est à l'œuvre. Il n'y a pas d'autres explications possibles. Et face à lui, on ne peut que se mettre à genoux, naturellement, sans y être poussé. Ce qu'il fait. Au fond de notre cœur et au fond de nos consciences, nous savons tous que nous sommes pécheurs. Pas pécheurs. Pécheurs. Vous coupez tout simplement la moitié d'un circonflexe et ça donne tout de suite un autre mot. Ça, c'est le français. Personne ne l'ira en général. Mais il y a des moments dans notre vie où nous nous sentons plus particulièrement pécheurs qu'en dans d'autres moments. Ce sont des moments où nous rencontrons Dieu, où lui, il va me rencontrer. Et sans me dire grande chose, je le sais par son Saint-Esprit, il me parle. Et je suis bouleversé. Et plus Dieu agit en nous et se manifeste à nos yeux, plus nous le sentons et plus que nous sommes bouleversés. C'est souvent aussi le moment de conversion. C'est là où je me reconnais la personne que je suis face à la bénédiction et des bienfaits que Dieu m'accorde malgré moi. Malgré moi. Et tout à coup, nous comprenons de ce que Dieu veut de nous, de la personne que je suis. Jésus n'a pas essayé de convaincre Pierre de jeter de nouveau ses filets avec un bon argumentaire. Il n'a pas expliqué les raisons de ses gestes. D'ailleurs, c'était aussi inutile parce que de toute façon, Pierre ne l'aurait pas cru. Un charpentier explique à un pêcheur comment il doit pêcher. Pour se relever, pour se révéler à nous, pardonnez-moi, et nous appeler à sa suite, Dieu n'essaye pas premièrement d'éblouir notre intelligence. Il opère par une autre manière. Il se passe de l'intelligence et il commence à briser directement ton cœur. Il se passe de ton intelligence et il brise d'abord ton cœur. Là où tu le ressens, la personne que tu es. L'intelligence suivra ensuite, soyez rassurés, encore quelque sorte de loin. Saint Benoît, qui était à l'origine de l'ordre des bénédictins, au VIe siècle, il a dit ceci. La première lueur que nous apercevons de Dieu est, très paradoxalement, la ténèbre de notre misère. Et le premier degré que nous montons vers la conscience de Dieu est celui que nous descendons vers l'abîme de notre péché. Il n'y a pas d'autre chemin. La première lueur que nous apercevons de Dieu est paradoxalement la ténèbre de notre existence. Et avant de monter vers la connaissance de Dieu, Dieu nous conduit sur le chemin de l'abîme pour nous découvrir que nous sommes. Et voilà la réaction de Pierre. Non, c'est pas ça. Éloigne-toi de moi, Seigneur, dit Pierre. Je suis un homme pécheur, verset 8. Face à la pauvreté humaine et face à sa misère, face à son péché, Dieu ne s'éloigne pas. Dieu fait le contraire de ce que tu ressens. Tu ressens que tu devrais t'éloigner de Dieu parce que sa sainteté ne correspond pas à ta propre vie. Mais Jésus ne s'éloigne pas de Pierre. Éloigne-toi de moi, je suis pécheur. Et Jésus fait tout le contraire. Jésus l'appelle à une grande mission, une mission au-delà des capacités humaines, une mission dont cette pêche de ce jour-là n'est que le symbole, qu'un acte prophétique. Désormais, dit Jésus, homme pécheur que tu es, désormais, homme pécheur que tu es, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Jésus encourage Simon à se relever, à poursuivre sa route, mais cette fois-ci avec lui et en tant que disciple. Et il l'encourage en disant « N'aie pas peur ». J'aime bien conclure. Jésus t'invite ce matin et à ce moment même, est-ce que tu fais un pas dans la foi, que tu oses, ou que tu oses de nouveau, si c'est nécessaire, de faire un pas dans la foi. Osez la foi, avec un R. Osez faire un pas dans la foi aujourd'hui. Osez mettre votre confiance, votre foi en Jésus. Est-ce que c'est le moment de renouveler ta confiance en Dieu? Est-ce que ce serait le moment pour le faire la première fois dans ta vie? André Gide. Gide, pardonnez-moi. Pourquoi Gide? Ça, j'ai pas vu. Parce que c'est Jean-Paul qui a eu la gentillesse de... Oui, oui, voilà. Mais en tout cas, j'ai trouvé. Donc, André Gide était protestant et écrivain au 19e siècle et mort en 1951. Il a dit ceci. D'ailleurs, cette phrase, vous allez toujours retrouver à la fin de mes prédications maintenant. Il est bien des choses qui nous paraissent impossibles, que tant qu'on ne les a pas tentées. Et c'est exactement ce que Jésus dit par rapport à la mort et à la résurrection de Lazare à Marthe, qui dit « C'est pas la peine, il pue déjà. » Il est mort depuis quelques jours. Jésus dit à Marthe « Ne t'ai-je pas dit, si tu crois ou si tu oses croire, tu verras la gloire de Dieu. » Je t'invite à oser croire ce matin. Même si ta réalité te semble impossible, impossible d'envisager des changements, des guérisons, ce qui est à peine. Tente aujourd'hui de nouveau le pas nécessaire auquel Dieu t'invite, que uniquement toi peux faire, afin que tu reçois la bénédiction, la guérison, tous les trésors que Jésus voudrait t'apporter. Prions. Seigneur, tu viens dans les impossibilités de notre vie ou de ce qu'elle est devenue, et tu voudrais nous montrer une toute autre réalité qui sera possible, mais dans la confiance en toi. Seigneur, moi je voudrais renouveler cette envie, ce désir de croire et de toujours croire de nouveau. Aller au-delà de ce qui m'est connu et te faire confiance là où tu m'invites à abandonner mes certitudes, mes douleurs, ma réalité à moi, et de découvrir et de rentrer dans cette expérience qui est toute nouvelle et que tu voudrais nous faire vivre en Jésus et pas ton Saint-Esprit. Pour tous ceux, Seigneur, qui peinent ce matin, parce que leur vie connaît une souffrance, je te prie qu'ils ne désespèrent pas, mais qu'ils osent croire et osent croire de nouveau. Interviens, Seigneur, et remplis leur vie, comme tu as rempli les deux barques au prix presque qu'ils coûtent. Nous te demandons, Seigneur, interviens dans notre vie et remplis-la de ta présence, de ta guérison, de ta libération. Amen.